Donc heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais... Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Et je m'arrêterai plus sur ce verset 3. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que vous pourriez lever la main ceux qui peuvent dire tout ce que j'ai fait m'a réussi? N'hésitez pas, hein, levez votre main bien haut. Non?
Ça compte si on ne fait rien.
On peut réussir à ne rien faire, on peut réussir à faire des choses mauvaises, mais est-ce que tout vous réussit? Il ne s'agit pas ce matin de faire un message que certains affectionnent et de dire que si vous êtes chrétien, tout doit vous réussir et vous devez être dans la prospérité, etc. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plutôt d'échecs. Parce que tous, a priori, vu que vous n'avez pas levé la main, vous avez rencontré au moins une fois un échec dans différents domaines. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, familial, ça peut être matériel, ça peut être au niveau de la santé, ça peut être dans des tas de domaines, sportifs, par exemple. Vous avez, et je pourrais dire nous avons tous, rencontré plusieurs échecs. Peut-être certains plus que d'autres. On n'est pas là ce matin pour faire un concours. Pourtant, la parole nous dit que tout ce que nous faisons, on est censé le réussir, n'est-ce pas? Alors, je vais aborder l'échec sous plusieurs aspects, au travers de plusieurs passages, et je vais commencer par ce qui fâche un peu. Souvent, nous rencontrons des échecs parce que c'est notre faute. Alors, il ne s'agit pas ce matin de s'apesantir, de culpabiliser chacun et de dire « tout ce que vous ratez, c'est votre faute, et votre faute uniquement ». Mais ne passons pas à côté de certains passages de la parole qui nous montrent que certains échecs sont de notre faute. Que dirais-je d'un élève qui ne vient pas à plusieurs cours volontairement, n'apprend pas ses leçons, ne fait pas ses devoirs, n'écoute pas les cours, et qui derrière, après, en fin d'année, à l'examen, échoue? Est-ce que je dirais, bon, il n'a pas eu de chance? Certainement, c'est parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Évidemment, quand bien même je connais Dieu, on est tous d'accord que si à chacun des entretiens d'embauche où je me rends, j'insulte les recruteurs, je ne vais pas dire derrière « Seigneur, que fais-tu? Pourquoi n'ai-je que des réponses négatives ?» Il y a des échecs qui sont de notre fait. Pour cela, on peut illustrer en prenant dans Josué notamment un passage bien connu après la belle et grande victoire sur la ville de Jéricho. On a l'épisode de la ville d'Aï, et l'Éternel dit à Josué, donc après la défaite, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi prosterné ? Israël a péché. Ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction, ils les ont volés et ont menti, et ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. » On est bien d'accord que parfois, dans nos vies, si on rencontre des échecs, c'est de notre faute. Et là, il ne s'agit pas de prier et de dire « Seigneur, donne-moi la victoire ». Dieu leur dit bien, avant d'obtenir la victoire, il y a des choses à faire. Il y a des choses à changer. Vous devez éliminer ce qui ne va pas. Alors, si je ne faisais mon message que sur ce thème-là, ça ferait un peu pharisien de dire « Vous êtes pécheur, vous êtes pécheur, vous êtes pécheur, changez, éliminez le péché qui est en vous. » Mais évidemment, la parole de Dieu ne s'arrête pas là. On est bien d'accord que dans notre vie, il y a certains échecs qu'on a rencontrés parce que nous n'avons pas fait les choses de la bonne façon. Notamment, on voit bien aussi que dans ce passage, que je vous invite à reprendre chez vous, à aucun moment Josué consulte l'Éternel. Il envoie des espions, il voit que la ville est encore plus faible que celle de Jéricho qu'ils ont prise avec brio. Pas besoin de consulter Dieu, allons-y. À aucun moment, Josué, en tant que responsable, s'est dit, est-ce qu'on a bien suivi tout ce que Dieu avait prescrit? Est-ce que nous avons fait les choses de la bonne façon? À aucun moment, on ne peut dire que cet échec est dû à une mauvaise stratégie. Cet échec vient simplement parce que Dieu n'a pas été respecté et ce qu'il a annoncé, ce qu'il a demandé n'a pas été respecté. Et ça, ça peut être une leçon pour nous et pour nos vies. Parfois, je rencontre des échecs simplement parce que je n'ai pas cherché la face de Dieu, je n'ai pas cherché sa volonté. Alors, on pourrait illustrer ça de façon peut-être un peu exagérée, mais que diriez-vous si, en rentrant chez vous, vous tombez sur une carte bleue par terre et au lieu d'aller la déposer à la banque ou la rendre à son propriétaire ou à la gendarmerie, à la police, je ne sais quoi, vous vous dites, bah tiens, Seigneur, je vais la mettre dans la machine, j'ai 3 essais, donne-moi la réussite, donne-moi l'argent. Qui pourra dire après, je ne comprends pas, j'ai prié avec foi, j'avais besoin de cet argent, et Dieu ne m'a pas donné la réussite. Évidemment, ça peut faire sourire un peu, mais on peut se dire que cette situation-là, on la vit parfois, sans s'en rendre compte. Et on demande parfois à Dieu de nous accorder des choses qui sont complètement contraires à son plan et à ce qu'il a prévu pour nous. Évidemment, on est tous d'accord que voler son prochain, ça ne fait pas partie, a priori, des plans de Dieu, quand bien même leur compte en banque est bien plus rempli que le nôtre, n'est-ce pas? Le plan de Dieu peut se faire de façon miraculeuse, et certains ont eu parfois des exaucements dans des situations difficiles, mais pas de cette façon-là, pas en volant ce qui n'était pas à nous. Évidemment, les échecs peuvent arriver de par notre conduite, mais est-ce que c'est là la seule raison? Est-ce que tous les échecs que vous avez rencontrés dans votre vie ne viennent pas parfois d'autre chose? Est-ce que la parole ne fait que mettre en avant le fait que si vous échouez, c'est simplement parce que vous faites mal les choses et parce que vous êtes loin de Dieu? Y a-t-il d'autres situations? Y a-t-il d'autres passages qui pourraient nous montrer que finalement on rencontre parfois des échecs pour d'autres raisons? Alors si on regarde dans l'Ancien Testament, généralement c'était assez simple. Les victoires que remportait Israël, c'était parce que Dieu était avec eux. Les défaites qu'ils rencontraient, c'est parce que Dieu généralement n'était pas avec eux. Mais dans votre vie, est-ce que c'est aussi simple que cela? Est-ce qu'on peut prendre d'autres exemples? Je vais en citer un qu'on connaît peut-être. Certains apôtres, après la résurrection, ont été pêchés. Et c'était des pêcheurs, non pas au sens qu'ils commettaient le mal, mais des pêcheurs au sens qu'ils pêchaient des poissons. C'était leur métier, n'est-ce pas? Ils ont pêché toute une nuit. Et qu'est-ce qu'ils ont eu? Rien. Comment une équipe de pêcheurs expérimentés, dont c'est le métier, peuvent passer toute une nuit sur un lac sans pêcher un seul poisson? Comment expliquer cela? Est-ce que c'est parce que, comme dans la première partie, c'était des hommes mauvais, qu'ils méritaient de ne pas pêcher de poissons, qu'ils avaient commis quelque chose qui avait déplu à Dieu et que Dieu les punissait de cette façon-là? Est-ce que c'était là le but de cet échec? Ou bien, est-ce que cet échec n'avait pas un autre but? Quand Jésus arrive et leur dit « Jetez le filet sur votre droite », que se passe-t-il alors? Ils n'arrivent plus à le soulever. S'ils avaient passé la nuit à pêcher et à avoir une bonne pêche, n'est-ce pas, à pêcher des dizaines, des centaines de poissons, si Jésus arrive et leur dit « Jetez le filet de ce côté-là », ils en ramènent encore une dizaine, qu'est-ce qu'on aurait pu attribuer à Jésus comme gloire, comme succès? On aurait loué l'homme, n'est-ce pas, en disant « Ce sont de bons pêcheurs, ils connaissent leur métier, ils connaissent les bons coins, ils ont l'habitude, ils sont expérimentés. » Et on aurait oublié de louer Dieu, qui au final, même si, en effet, ils ont d'expérience, à chaque fois qu'ils jettent leur filet, c'est Dieu qui accorde ou qui n'accorde pas. Le but de ces échecs répétés, était simplement de faire éclater la gloire de Dieu. On peut prendre un autre passage à ce sujet, dans Jean 9, que j'ai cité la semaine dernière d'ailleurs, où les disciples voient un aveugle de naissance. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance, et ses disciples lui firent cette question: « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Et on retombe dans le schéma de ma première partie. Si il y a une épreuve, un échec, quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a un péché derrière. C'est forcément que Dieu n'est pas avec. Est-ce que Jésus répond « Oui, ses parents ont péché, lui, oui, lui-même a péché. » Qui va dire à un bébé qui vient de naître « T'es aveugle, c'est ta faute. Tu l'as bien cherché. Tu l'as mérité. » Et si ce n'est pas toi qui l'as mérité, toute ta famille a fait suffisamment de choses mauvaises pour que tu mérites cette naissance. Est-ce que nous sommes en train tous de croire au karma et à la réincarnation et que si on est dans une situation mauvaise et que certainement on a dû faire des tas de choses mauvaises avant? Non, à aucun moment, Jésus dit « Oui, ses parents ont péché. » Alors que certainement, ses parents étaient pécheurs. Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » De la même façon que dans cet épisode de pêche miraculeuse, naître avec un handicap terrible pour l'époque, on n'est pas dans une époque où vous avez droit à des allocations handicap, des places de parking plus intéressantes, etc. On est dans une époque où être aveugle, c'est dramatique. Il n'y a pas de braille, vous ne pouvez ni lire. Pour communiquer, c'est compliqué, vous ne pouvez pas travailler, vous n'avez aucune allocation, aucune aide. Vous devez mendier, vous devez implorer la pitié des autres pour survivre. Et être aveugle de naissance, c'est encore pire. Vous n'avez jamais eu la chance de voir. Quelqu'un qui a vu et qui a perdu la vue, il peut se souvenir de ce qu'il a vu. Et qui plus est, comme je disais aussi la semaine dernière, qui a déjà vu un aveugle de naissance guérir? Mais de la même façon que les disciples n'ont rien péché pendant un temps, Jésus a montré que si cet homme a été dans cette situation-là, ce n'est pas qu'il l'ait mérité. Parce qu'on mériterait tous dans ces cas-là, même de ne pas naître du tout, quand on voit nos vies. Mais c'est simplement que Dieu avait choisi cet homme pour manifester sa gloire, pour manifester sa puissance, pour montrer à tous qu'il n'est pas juste un très bon médecin avec un bon diagnostic, mais qu'il est bien au-delà de tout cela. Alors peut-être vous êtes dans cette situation-là et peut-être vous regardez aux autres en vous disant « Pourquoi moi je ne vois pas et lui il voit ? Pourquoi moi je n'ai pas réussi cet examen ?» Je me faisais cette réflexion quand j'étais jeune chrétien et je me disais « Mais je vois des camarades qui trichent et ils réussissent mieux que moi. Mais que fait Dieu ? » N'est-ce pas ? Ça vous est peut-être déjà arrivé de ressentir de l'injustice ? Ou bien de travailler encore et de voir qu'on nomme quelqu'un d'autre à un poste plus important simplement parce que c'est le cousin du patron ? Et on pourrait se dire « Mais Dieu, que fais-tu ? Pourquoi moi j'échoue alors que je fais tout comme tu me le demandes ?» Parfois, nous passons par des échecs, simplement pour que Dieu puisse manifester sa gloire en nous, d'une façon extraordinaire. Que penser d'un David, petit berger, dernier de sa famille, qui finit roi d'Israël pendant des décennies ? Que penser d'un Joseph, esclave au fond d'une prison, accusé à tort, qui finit numéro 2 de la première puissance économique de l'époque ? Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils ont bien cherché leur situation, leurs échecs ? Est-ce que Joseph l'avait cherché ? Est-ce qu'il avait touché la femme de son maître ? Non. Mais parfois, on passe par des situations comme ça, un petit peu difficiles, pour que Dieu fasse éclater sa gloire. Mais on peut continuer aussi à parler d'échec et à se dire au final, qu'est-ce que l'échec ? Est-ce que vous considérez que ne pas avoir un travail lors d'un entretien d'embauche, c'est un échec? Est-ce que vous considérez que gagner que moins que vos contemporains, c'est un échec? Est-ce que vous considérez que quand vous voyez votre voiture et vous voyez passer une Porsche, vous dites « ma vie est un échec » Bien qu'on voyait les stars à la télévision, adulées, adorées par tous, connues, reconnues, riches, des personnes toujours magnifiques, n'est-ce pas? Et on regarde autour de nous et on se dit « mais ma vie ne ressemble pas du tout à ça ». Bien que ma femme soit bien plus magnifique. Je ne dis pas ça parce qu'elle écoute sur Zoom. Hein. On pourrait regarder autour de nous et nous dire « ma vie est pleine d'échecs, ma vie est un échec ». Alors peut-être, je vais avoir un peu d'espoir en me disant « c'est pour que Dieu un jour aussi manifeste sa gloire en moi ». Peut-être qu'un jour il va m'accorder aussi cette guérison miraculeuse et tout changer. Peut-être qu'il va faire de moi, comme David, un grand roi, quelqu'un de puissant, de connu. Je n'en suis pas sûr. Mais on peut regarder notre vie et se dire « ma vie est un échec » parce que nous regardons notre vie par le prisme de ce que le monde nous propose. Nous regardons à ce qui frappe les yeux. Comme encore une fois, Dieu l'avait dit à son prophète, alors que Dieu regarde au cœur. Si je regarde ma vie, si je regarde mon compte en banque, je me dis certainement en France, il y en a beaucoup plus qui gagnent bien plus que moi. N'est-ce pas? Si je regarde l'appartement où je vis, et je regarde certaines émissions à la télévision, je me dis, mais voilà la maison que je devrais avoir, n'est-ce pas? Quand je regarde un petit peu à tout ce qui frappe les yeux, je peux avoir l'impression que ma vie est un échec. Mais si nous regardons la vie de Jésus avec justement cette vision du monde, est-ce que sa vie ne ressemble pas à un échec? Tout roi qu'il était, il est né dans la misère, dans une étable. On a essayé de le tuer alors qu'il était petit. Toute sa vie, lors de son ministère, on a essayé de le tuer à plusieurs reprises. Les gens se sont opposés à lui. Il n'a fait que faire le bien, et comment a-t-il fini? Sur une croix. Même pas une mort glorieuse comme dans ces films qu'on connaît où le héros se sacrifie et emporte avec lui la moitié de l'armée ennemie. Ce n'est pas un Samson qui, à lui seul, anéantit l'opposition. Non, il est mort d'une façon honteuse. Battu, insulté, humilié, cloué sur une croix. D'un point de vue humain, la vie de Jésus est un échec. À aucun moment, Jésus n'a amassé des propriétés, n'a eu des richesses, n'est-ce pas? À aucun moment, Jésus n'a fait l'adhésion de tous. Au contraire, il a été souvent décrié, poursuivi. Mais d'un point de vue divin, est-ce que la vie de Jésus n'a pas été la plus belle des réussites? Que dire d'autres personnages? Que dire d'un Jean-Baptiste, n'est-ce pas? J'ai entendu cette semaine un pasteur sur YouTube l'appeler un hipster, qui mangeait bio, qui parlait mal aux gens de son époque. Que les pharisiens, les gens importants, ils ne les reprenaient pas avec les meilleurs termes, n'est-ce pas? Un hulu-berlu, barbu, mangeant des sauterelles dans le désert. Est-ce là la réussite que le monde voit? Et pourtant, qu'a dit Jésus de lui? C'était le plus grand de tous les prophètes. Que dire d'un Paul qui était extrêmement bien éduqué, n'est-ce pas? Formé par Gamaliel, dans la connaissance des Écritures, qui avait un poste important, des responsabilités, et qui a perdu tout cela pour se retrouver poursuivi, pourchassé, rejeté par son peuple. Que dire d'un Étienne et de la manière dont il a fini? Que dire encore de tant d'autres apôtres ou disciples? Leur vie, aux yeux des hommes, est un véritable échec. Ils n'ont pas eu une longue vie heureuse en vivant dans l'opulence, avec une grande famille, de nombreux enfants, avec des tas de gens qui les adoraient, qui les admiraient, mais ils ont été rejetés, humiliés, battus, tués. Ils ont vécu dans la pauvreté, dans le dénuement, mais ils ont vécu dans la joie. Dans notre siècle, la philosophie recherche à tout prix le secret du bonheur. C'est ce que les hommes veulent, n'est-ce pas ? Et on peut avoir des maximes comme « l'argent ne fait pas le bonheur », mais il y en a beaucoup qui recherchent l'argent. Nous-mêmes, on pourrait se dire ben, « ce matin, je suis là, j'ai passé du temps à préparer un message, où est ma rémunération ?» Ceux qui ont joué tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas un métier d'être musicien ou de chanter ? Ceux qui ont fait le ménage cette semaine, n'est-ce pas un métier non plus ? Où est leur rémunération ? On pourrait se dire « mais ce temps que je passe à lire ma Bible, je pourrais faire des heures sup, n'est-ce pas ? Gagner plus, chercher toujours davantage ?» Mais dans 1 Timothée 6, il nous est écrit quoi ? Travailler plus pour gagner plus ? Non. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Je ne vois personne nu ce matin, ou a priori en état de malnutrition ou de dénutrition. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pourtant, est-ce que ce n'est pas ce que recherche notre monde ? Est-ce que beaucoup ne seraient pas prêts à laisser leur travail ? Pour un travail peut-être moins honorable du point de vue de la morale, mais tellement mieux payé. Qui dirait à son patron qui lui propose une augmentation extraordinaire s'il ferme les yeux sur quelques petites manœuvres financières ? Que dire de toutes ces personnes dans cette église qui travaillent bénévolement ? Quelqu'un dans le monde dirait, mais pourquoi ? Pourquoi passes-tu autant de temps à faire ces choses bénévolement ? Regarde toutes les choses dont tu ne peux pas, après, avoir la propriété. Regarde tout ce dont tu passes à côté. Ce passage continue en disant « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alors certainement qu'en faisant cela, aux yeux des hommes, on va passer pour des gens un peu bêtes, n'est-ce pas ? On va passer pour des gens dont la vie est un échec. Tu as l'opportunité de t'enrichir. Tu peux ne pas déclarer cette somme aux impôts et tu l'as déclarée. Pourquoi ? Personne ne fait ça. On te propose un poste mieux payé et tu le refuses parce que tu préfères travailler pour ton église. Beaucoup d'hommes ne peuvent pas comprendre. Et beaucoup regardent la vie de Jésus et la voient comme un échec. Les musulmans n'ont... Leurs croyances ne reconnaissent pas Dieu comme fils de Dieu parce que pour eux, s'il était fils de Dieu, jamais il n'aurait pu mourir comme ça. Jamais Dieu ne l'aurait laissé vivre une mort aussi ignoble. Et nous, au contraire, si on regarde ça, en mettant de côté tous nos préjugés humains, tout ce que le monde essaye de nous bourrer le crâne avec, n'est-ce pas ? Et si on regarde nos vies, on peut voir en effet... tous les échecs que le monde va nous reprocher. Mais si on combat le bon combat, si je suis là ce matin, ce n'est pas parce qu'à la fin du culte, j'aurai le droit à un chèque, n'est-ce pas ? Mais la Bible ne nous dit-elle pas d'amasser des trésors dans le ciel plutôt que sur la terre ? La Bible ne nous dit-elle pas de chercher d'abord le royaume de Dieu et que toutes choses nous seront données en plus ? On pourrait voir ce qu'on vit sur cette terre comme une succession d'échecs. On pourrait se sentir coupable de la plupart d'entre nous. Qui pourrait dire en lisant le livre de Job, « Job a mérité tout ce qui lui est arrivé ». Job menait une vie tellement pieuse que le Seigneur le citait en exemple. Je ne sais pas si vous imaginez, je ne me vois pas trop cité en exemple au ciel. Dieu lui-même disait, « As-tu vu mon serviteur Job ?» Résultat, est-ce que sa vie était un échec ou une réussite? Aux yeux des hommes, Job avait une grande famille, de nombreux biens, n'est-ce pas? Il était dans l'opulence. On n'a pas de chiffres, mais on imagine bien que il pouvait se payer tout ce qu'il avait envie de se payer. Et pourtant, dans toutes ses richesses, il servait Dieu et il cherchait sa volonté. Par quoi est-il passé? Une succession d'échecs, n'est-ce pas? Alors, je ne relirai pas tout le passage ce matin, mais encore une fois, relisez-le chez vous. Et que lui ont dit ses amis? Certainement, tu as péché. C'est ta faute. J'en reviens à mon grand 1. Parfois, certains échecs sont de notre fait, en effet. Et parfois, non. Mais que va penser le monde? C'est certainement ta faute. Tu as dû pécher. Regarde tout ce que tu avais, tu as tout perdu. Tu menais une vie pleine de réussite et maintenant ta vie est un échec. Si cette histoire s'arrêtait là dans Job, on se dirait où est notre espérance, n'est-ce pas? Mais ça va plus loin que ça. Dieu montre qu'il a mis son serviteur à l'épreuve. Et à la fin, Dieu rétablit son serviteur. Et dans Jacques 1, qu'on connaît bien quand on parle de l'épreuve, on nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Quand la Bible nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », en fait, c'est vrai. Si je suis dans la réussite, je peux me réjouir. Si je suis dans l'opulence, dans la santé, si le Seigneur m'accorde de beaux enfants, je peux me réjouir et dire « Merci Seigneur pour toutes ces merveilleuses choses, ces bénédictions que tu m'envoies. » Et si je suis dans l'épreuve, qu'est-ce que je dois faire? La regarder comme un sujet de joie. Et au lieu de me dire « Ma vie est un échec, qu'ai-je donc fait pour mériter ça ?» Si je me dis simplement « Merci Seigneur, parce que tu me mets à l'épreuve, mais je sais que tu es avec moi. Je sais que ça a un but. Et que ce but est bon. » On se souvient tous de ce verset de Romains qui nous dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » N'est-ce pas? Alors évidemment, quand on est dans la réussite, on vient d'avoir le travail de nos rêves, on vient de passer un examen avec succès, avec mention, on est les premiers à prier, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Et quand au contraire, on se mange un échec alors qu'on a passé l'année à travailler et à passer des nuits dessus, et là on se dit, mais pourquoi Seigneur? Est-ce qu'on ne devrait pas dire aussi, merci Seigneur? Tu m'apprends la persévérance, tu m'apprends la patience. C'est dur à dire, n'est-ce pas, quand on est dans l'épreuve. Mais au final, quand on lit la parole et qu'on voit qu'un chrétien, un homme selon Dieu, qui est planté près des eaux, tout ce qu'il fait lui réussit, c'est que même dans l'échec, il est en train de réussir. Et si vous avez l'impression parfois de passer par des moments difficiles, si vous avez l'impression de regarder autour de vous et de vous dire « Mais pourquoi ceux qui font tant de mal réussissent mieux que moi ?» Dites-vous simplement que le plan de Dieu est parfait. Et qu'on n'a pas forcément la compréhension, nous, de ce qui va se passer par la suite. Alors je pourrais vous dire ce matin que je ne fais que regarder toutes mes épreuves comme un sujet de joie, mais ce serait vous mentir. Mais ce que je vous exhortais à faire, et ce que je m'exhorte moi-même à faire, c'est de ne pas regarder comme les hommes regardent, mais essayer d'adopter le regard de Dieu et de se dire « Ok, peut-être que je n'ai pas le métier numéro un dans le cœur des Français, je n'ai pas autant d'argent que ce que les gens veulent pour être heureux, est-ce que je n'ai pas la femme parfaite, les enfants parfaits, Est-ce que je n'ai pas la santé dans toutes les situations? Ma femme est parfaite, hein, ne dites pas le contraire. Parfaitement parfaite, mais elle le sait. Je pourrais regarder à tout cela et me dire, ce n'est que des échecs, ce ne sont que des choses que j'ai ratées. Ou bien je pourrais me dire, merci Seigneur pour tout ce que j'ai, pour chaque bénédiction que j'ai. Merci Seigneur parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai des vêtements, j'ai à manger. Que chercher de plus? Merci Seigneur parce que tu me connais, parce que tu m'aimes, parce que tu m'as choisi. Et à partir du moment où j'adopte un regard différent sur ma vie, je me dis au final, est-ce que j'ai besoin de plus d'argent? Est-ce que j'ai besoin d'un statut social plus important? Est-ce que j'ai besoin que sur les réseaux sociaux, j'ai des milliers de personnes qui me suivent, qui aiment mes publications? C'est un peu le mal de notre époque, hein. On voit ça chez les élèves. Il faut toujours plus de personnes qui nous suivent, qui nous connaissent, qui nous apprécient. N'est-ce pas? Et si je regarde à ce que Dieu regarde et je me dis, mais Seigneur, de là où je suis parti, tu as fait de moi l'homme que je suis. Est-ce que ma vie est un échec? Je ne crois pas. Est-ce que certains échecs, j'aurais pu les éviter? Certainement. Mais ce qu'il y a de beau dans tout cela, c'est que malgré toutes mes erreurs, mon Seigneur m'aime. Notre fille a toujours cette crainte à chaque fois qu'elle fait une bêtise, qu'on ne l'aime plus. À chaque fois, on lui dit, on t'aime, ça ne change rien. Elle a toujours besoin d'être rassurée, d'être prise dans les bras et qu'on lui dise qu'on l'aime encore. C'est terrible, hein, n'est-ce pas, cette peur. Mais on peut se réjouir ce matin parce que quand bien même nous vivons des échecs par notre faute, quand bien même nous vivons des épreuves, nous avons un Dieu qui nous aime et un Dieu qui est présent. La semaine dernière, je parlais sur les montagnes et j'ai oublié de dire une référence que je vais citer ce matin. Avec ma femme, on a regardé énormément ce film Le plus beau des combats, je ne sais pas si vous connaissez, avec Denzel Washington. Si ma femme ne m'avait pas épousé, je crois qu'elle aurait épousé Denzel Washington. Mais je crois qu'elle y a gagné, hein, n'est-ce pas? On est tous d'accord? Aussi. Mais dans ce film, on a un entraîneur, Denzel, qui est noir, et qui se retrouve pour la première fois à entraîner une équipe avec des blancs et des noirs aux États-Unis. Et qui se retrouve dans la pire situation, parce que tous les blancs lui en veulent s'il fait jouer les noirs, et tous les noirs lui en veulent s'il fait jouer les blancs. Et lui, il est censé les faire jouer ensemble, et il est censé aussi les faire gagner, parce que sinon il est viré. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, n'est-ce pas? On n'a pas le droit à l'échec dans le sport. Il faut toujours gagner. Et dans ce film, je ne vais pas en faire une référence hein, sur la vie chrétienne, mais il y a ce chant qui dit « There's no mountain high enough », avec un accent, hein, « Il n'y a pas de montagne trop haute, n'est-ce pas ? » Et cette équipe composée à la base de noirs, de blancs qui se détestaient les uns les autres, dans une ville où chacun essayait de faire échouer les autres, ils finissent par agir ensemble, jouer ensemble et par gagner le championnat. Simplement parce que, à un moment donné, ils se sont dit, il n'y a pas de montagne assez haute. Alors on peut dire la même chose dans nos vies, on pourrait regarder ce qui est devant nous et se dire à chaque fois, je suis face à des situations qui me dépassent, qui sont trop hautes pour moi. Ça, non, je ne pourrais pas le faire. Non, je vais aller forcément devant d'échecs. Et parfois même, on ne va même pas essayer par peur de l'échec. Mais on a un Dieu qui nous dit, il n'y a pas de montagne trop haute pour toi. Si je suis avec toi, que crains-tu? Qui crains-tu? Alors ce matin, je voudrais vous laisser cette idée que ce que vous regardez dans votre vie peut être comme des échecs, comme des choses que vous avez manquées. Que les épreuves que vous traversez parfois peuvent vous mettre dans des situations ou dans des on va dire, condition morale tellement basse que vous vous dites, mais à quoi bon? Pourquoi? Pourquoi moi je passe par cela? Pourquoi suis-je dans la maladie alors que toutes ces personnes mauvaises autour de moi sont dans la santé? Pourquoi moi je n'ai pas de travail alors que tous les autres autour de moi ont un travail? Pourquoi je me retrouve dans la pauvreté? On pourrait continuer comme ça, sur tous les différents thèmes dans notre vie. Et on pourrait, comme Job, simplement dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » Et j'aimerais finir par ça ce matin. Peu importe ce que nous traversons, peu importe ce que nous allons traverser, que le nom du Seigneur soit béni. Amen.